Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, c'est avec bonheur que je vous retrouve ce soir pour vous accueillir sur cette libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour partager des moments de vie, des joies, des peines, des espoirs. Vous le savez, il m'arrive souvent de vous conseiller d'écrire ce que vous avez sur le cœur, de faire sortir ce qui fait mal pour le mettre sur une feuille. Eh bien, je suis tombée ce matin sur un extrait d'un livre dans lequel Eric Emmanuel Schmitt se raconte et qui s'appelle « Plus tard, je serai un enfant ». J'avais envie de partager ça avec vous ce soir, voilà ce qu'il dit. Je n'écris pas pour étaler ce que je pense, mais pour le découvrir. Écrire implique d'enquêter, de creuser, de patienter, d'ausculter, d'insister, de peser, de réfléchir, de formuler puis de reformuler, d'atteindre le moment de vérité où enfin l'on raisonne juste, l'on perçoit juste, l'on parle juste. Parfois les phrases jaillissent, me surprennent et m'éclairent. Le livre n'apparaît qu'au bout du chemin et moi aussi. D'étape en étape, ma personnalité s'édifie, se précise, s'affine. Mes livres m'ont fait naître à moi-même. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas écrivain, mais je suis persuadée que beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, l'écriture est libératrice, comme la parole. C'est cette parole que nous allons partager ce soir encore sur Europe 1. Quels que soient vos soucis, appelez-nous. Si par exemple vous êtes accro à la cigarette et que vous n'arrivez pas à arrêter, appelez-moi, je vous expliquerai pourquoi vous êtes coincé et comment ça peut marcher pour vous sortir de là si vous êtes en surpoids, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, si vous avez des phobies qui vous pourrissent la vie, si vous manquez terriblement de confiance en vous, appelez-moi que je vous explique ce qui se passe dans notre cerveau et que je vous donne des clés pour commencer à vous libérer. Benjamin et Amandine reçoivent vos appels ce soir comme tous les soirs au 39-21 et vous guident jusqu'à moi si vous souhaitez que nous nous parlions. Vous savez que vous pouvez aussi entrer dans cette grande famille qu'est la Libre Antenne via les SMS. Vous envoyez votre message au 7-39-21 en commençant par le mot « nuit ». Ou bien par mail sur le site d'Europe 1 à la page de la Libre Antenne. Les SMS et les mails vous permettent aussi de réagir à ce qui se passe à l'antenne, de raconter une expérience, d'apporter un soutien, une suggestion. Quel que soit le chemin que vous choisissez, téléphone, texto, SMS, nous sommes là pour vous accueillir avec bienveillance. Sous la houlette ce soir d'Andreas Papadian qui réalise cette émission.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et la première à avoir composé le numéro de cette libre antenne, c'est Anne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur cette libre antenne, Anne.
Merci.
Dites-moi, quelle est la raison de votre appel?
Alors moi, je vous appelle parce que je suis dans une grande tristesse pour être en manque de relation avec ma fille. Une fille unique. Je n'ai qu'elle. Je n'ai plus qu'elle Et pour elle-même, elle n'a pas grand monde puisque elle a une grand-mère et puis moi-même. Et elle a rencontré un jeune homme il y a 5 ans, 6 ans.
Oui.
Elle vit avec lui.
Mmh.
Et qui est plus jeune qu'elle d'ailleurs et qui est apparemment très dominant. Puisque je suis un peu étonnée parce que ma fille a du caractère quand même. On a eu une vie pas forcément facile. Et je la vois pas. Je l'entends pas, très peu, rarement. Et les mois passent, et pour moi c'est très dur, parce que je sais pas comment faire.
Alors racontez-moi un petit peu comment ça a commencé. Est-ce que c'est déjà une enfant que vous avez eue avec un papa, qui était présent?
J'ai eu un mari. Malheureusement, ça n'a pas été un couple qui a vécu longtemps, puisque j'ai été mariée que 7 ans.
Mmh.
Au cours de ces 7 années... cet homme est parti 3 fois pour aller chez ses parents. Et il s'est suicidé 7 ans après notre divorce.
Mmh.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très lourd. C'est une vie qui est... Voilà, et je pense qu'elle a beaucoup souffert de tout ça, bien que... moi-même, j'étais là et je me suis occupée d'elle et j'ai pas voulu refaire ma vie, j'ai pas voulu je voulais pas qu'elle souffre par un autre homme ou voilà.
Bien
donc
j'imagine
j'ai
que
travaillé,
vous
y... j'ai vécu simplement, j'ai
vous l'avez protégé
voilà.
le plus possible.
Ben, j'ai pensé, et puis avec son père, enfin son père l'aimait beaucoup aussi, et elle l'aimait beaucoup son père. Donc il a vécu pas très loin de nous d'ailleurs. Bon, il s'est cette affaire s'est passée pour des raisons de professionnelles, mais bon je sais pas, du coup à des moments je pense qu'elle me fait porter la responsabilité de tout ça, je sais pas.
Qu'elle vous en veut ?
J'ai l'impression, j'ai eu beau lui dire, et va voir un psychiatre, va voir un psychologue. Pour parler de tout ça, il faut que tu déposes tout ça. Il faut que moi, j'y peux rien. Enfin, je suis pas responsable du décès de ton père. Je suis pas non plus responsable. En fait, je me rends compte que moi-même, je suis rentrée dans une vie où je suis restée dans une vie où j'aime pas ça parce que c'est un peu effrayant, mais où il y a un mort, quoi. Où il y a un mort et puis j'ai pas rebondi, j'ai pas refait ma vie, j'ai voulu la enfin ça rime à quoi, enfin je me rends compte que ça rime à rien du tout et que dans la vie il faut penser, enfin ce que je veux dire égoïstement à soi, je sais pas, mais il faut, enfin je pense que la famille c'est quelque chose d'important. Je pense aussi que c'est un drame aujourd'hui, toutes ces familles qui explosent. Tous ses enfants, enfin, ma fille est adulte maintenant. Elle a une profession, elle, voilà. Mais pourquoi elle se laisse avaler par ce garçon ? Je peux même pas l'appeler un homme, quoi. Il veut commander, mais en plus, je pense qu'il est briefé par son père, quoi. La première fois que j'ai été reçue chez sa belle famille, j'ai fait l'erreur de dire que je n'avais qu'une fille, quoi. Vous savez que je n'ai qu'une fille. Le père m'a répondu tout de suite, ah, c'est l'amour. En fait, c'était pas, je voulais pas l'empêcher de vivre l'amour, moi.
Dans quel sens il vous a dit c'est l'amour ?
Je sais pas. Je l'ignore. Vous voyez, je l'ai jamais fait puisque je n'ai aucun. Ça, c'est un grand regret pour moi d'ailleurs parce que je me rends compte des choses qu'on fait pas quand on vit des situations pas faciles parce que je vis dans une ville où voilà où j'ai vécu j'avais pas de famille proche pour m'aider ou pour être là si j'avais besoin de la confier un moment ou je sais pas ça reposait quand même beaucoup sur moi. Il y avait la grand-mère quand même, sa grand-mère paternelle a voulu parce qu'elle aimait sa petite fille. Elle a voulu s'en occuper. C'est vrai que les vacances, elle les passait plus avec sa grand-mère qu'avec moi parce que j'avais pas forcément les moyens. Et puis,
elles s'entendaient bien toutes les deux.
Oui, elles s'entendaient bien. Des fois, dans mon cœur, j'ai tendance à me dire, tu as trop accepté de choses. Enfin, j'ai écouté ma mère à l'époque qui me disait, écoute, sa grand-mère a les moyens, elle peut, laisse-la faire. Elle veut la gâter, laisse-la faire. Mais en fait, j'ai trop laissé faire. Parce qu'aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression, est-ce que c'est juste de vouloir garder un enfant avec finalement les moyens que... Enfin, moi, j'avais moins de moyens que ma belle-mère.
Ça
donc,
va, je ne crois pas que pour un enfant, les moyens, ça soit vraiment important.
Non, mais je pense qu'elle m'aime quand même un petit peu, mais en fait, elle, je comprends pas qu'elle ressente pas le besoin de partager, de vivre des choses avec moi. Enfin, vivre des choses, c'est pas que je veuille la couper de sa vie, mais vivre un moment, vivre. Mais je suis même pas reçue chez eux.
Attendez, est-ce qu'on peut juste rembobiner un tout petit peu que je comprenne l'histoire ? Au moment du divorce, vous restez seule avec votre fille.
Oui.
Si je comprends bien, vous créez un peu une bulle avec elle, vous travaillez beaucoup, vous vous occupez beaucoup d'elle.
Oui.
Elle voit quand même sa grand-mère, ses deux grand-mères.
Oui, elle voit son père. Après
elle voit son père, d'accord.
Son père est vivant, enfin, il est vivant, il reste vivant 7 ans, puisqu'elle a 12 ans, elle a 5 ans quand il est parti, vraiment.
D'accord.
Mais elle le voit quand même, hein.
Entre elle et vous, ça se passe comment à ce moment-là ? La préadolescence.
Quand il est parti, ses départs répétés en plus. c'est vrai que moi, j'avais arrêté de travailler pour l'élever parce que c'était son désir, le désir de mon mari. Et comment dire, et c'est à ça aussi, c'est un peu une erreur, mais bon. Et je me rappelle la première fois, j'étais en larmes, enfin, je savais pas. Enfin, j'avais l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire je savais pas, j'étais perdue, quoi. Excusez-moi de dire ça, mais si je fais un retour arrière, je me dis, je sais quoi, j'avais 33 ans, mais j'ai l'impression que j'étais une petite fille perdue. Enfin, je me disais, comment je vais vivre, j'ai pas de boulot, je suis là, où c'est que je vais vivre. Enfin, c'est vrai que j'ai perdu, enfin, mes repères. C'est vrai qu'un mariage. Enfin, je sais pas.
Oui, la cellule a explosé, la cellule familiale.
Ben oui.
Mais vous avez réussi, vous avez travaillé, vous en êtes sorti, vous êtes occupé de votre fille.
Et puis j'allais dire, j'ai puisé. Je reconnais que je revois ma petite fille me regarder, me dire, maman pleure pas. Et ça a été un soutien, ça a été une force extraordinaire. Je me revois en train de prendre ma petite fille qui était petite dans les bras et me dire au fond de moi-même, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit, il faut avancer, quoi.
Il faut tenir debout pour elle.
Bah oui.
D'accord. Donc là, à ce moment-là.
Et c'est vrai que je suis restée au même endroit parce qu'elle voulait rester dans sa maison, dans son école, ceci, cela. J'ai beaucoup. En fait, je me rends compte que dans ma vie aussi, j'ai fait la volonté des autres, en fait.
Vous l'avez laissé.
Et ça, pour moi, c'est une grosse blessure aussi.
Vous l'avez donné priorité à votre fille.
Voilà, ce qui m'ennuie, c'est que je me rends compte que voilà, je suis passée toujours après. Et en fait, elle reconnaît pas ça. C'est même pas tant que. Mais enfin, que je l'ai aimée. J'ai pas délaissé ma fille. On n'est pas partis en vacances ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas vécu de bons moments comme il y a plein de gens peut-être qui en vivent avec leurs enfants. C'est un regret de ma part, mais j'y peux rien. J'ai vécu comme je savais le faire, comme je pouvais le faire. Et voilà. Mais je me rends compte que est-ce que j'ai laissé trop de place aux autres? Du coup, son compagnon, il a toute la place. Alors lui,
attendez, parce que là, j'en suis restée moi à l'époque où son papa était encore vivant. Quand son papa décède, quelles sont les relations entre votre fille et vous à ce moment-là? Est-ce que tout de suite elle vous en veut? Est-ce que c'est là que ça commence à se compliquer?
Non, tout de suite elle m'en veut pas. On était très chagrinés, elle, moi.
Vous étiez proches encore?
Ah bah oui.
Elle vivait avec vous?
Oui, bien sûr, elle a vécu avec moi jusqu'à ses 25 ans. Elle en a 35 maintenant.
Et quand est-ce qu'elle a rencontré ce garçon?
Elle vit avec lui depuis 5 ou 6 ans. Elle a dû le rencontrer peut-être un an avant, ou 2 ans avant, un an et demi avant. Je ne sais pas précisément. C'est vrai que j'étais pas très. J'étais pas très à l'écoute. Je reconnais, je me faisais pas trop. Pas trop de soucis pour ça. De toute façon, elle vivait chez elle quand elle a rencontré ce garçon-là.
Donc vous ne savez pas trop à quoi ressemblait sa vie à ce moment-là?
Si, je savais qu'elle n'allait pas bien. Je ne la voyais pas beaucoup, non plus.
Donc déjà,
beaucoup, mais elle habitait plus près. Et puis, j'allais pas beaucoup. Enfin, c'est vrai que ça a été rare que j'aille chez elle et je voyais que. Je voyais que chez elle, ça tenait pas la route non plus. C'était un peu le bazar, comme chez moi d'ailleurs. Je suis pas très fière de dire ça. Je sais pas, ce serait intéressant que si vous avez explication pourquoi c'est le bazar, ce serait.
On dit souvent que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur.
Voilà, c'est le bazar le plus complet. Et donc j'avais vu à l'époque que ma fille, chez elle, c'était pareil. Et je me suis dit, elle va pas bien. Alors qu'extérieurement, elle a un bon travail, elle est belle, elle faisait plein de sport, elle n'arrêtait pas d'ailleurs. Là, ça lui manque un peu, elle est sportive, de toute façon, son compagnon est sportif, donc elle fait quand même du sport. Mais
quand vous avez vu qu'elle allait mal.
J'étais même un peu inquiète, je reconnais, puisque vous me renvoyez à cette époque-là, avant qu'elle le rencontre. J'étais même inquiète, je me demandais si elle faisait pas de l'anorexie ou. Enfin, elle n'était pas maigre à ce point, mais Bon, elle était toujours en train de prendre garde à Céline, mais je me suis demandé si elle, si c'était pas aller plus loin, en fait.
Vous en avez parlé avec elle ?
Bah, une fois, elle m'a fait une remarque. Une rare fois où j'étais passée chez elle, puisque j'avais pas le droit, ou c'est moi qui m'autorisais pas, je sais pas, puisqu'à l'époque, elle vivait avec personne. Je sais que j'avais sonné chez elle, et puis elle était descendue, et puis elle m'avait lancé une phrase, un mot qui m'avait fait dire « Mais ta fille va mal, quoi. Enfin, elle est même en danger. Enfin, j'avais peur pour elle, quoi. »
Qu'est-ce que vous avez fait, alors ?
Comment ?
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez laissé un haut-parleur ou quelque chose, une radio allumée, Anne ?
Non, il n'y a pas de radio. Il y a juste... Attendez, autrement, je vais dans une pièce. Il y a juste un appareil pour... Attendez, je vais... C'est un appareil de soins, d'ailleurs.
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vous propose qu'on fasse une toute petite pause et je vous retrouve juste après. Comme ça, vous avez le temps de régler ce problème. D'accord ?
D'accord, merci.
Merci, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Alors Anne, on reprend cette conversation toutes les deux. Vous me disiez qu'avant qu'elle rencontre ce jeune homme, vous aviez senti qu'elle allait mal, votre fille.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ?
J'étais un peu perdue. J'aurais aimé justement, déjà à cette époque, je me suis dit... que je n'avais pas suffisamment eu connaissance de ses amis. Ça veut dire que je savais qu'elle connaissait des jeunes étudiants de son âge, filles et garçons, d'ailleurs des garçons qui ont été protecteurs pour elle, c'est marrant, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus de père, mais c'est vrai que je me disais, j'ai les coordonnées de personne, quoi. Même dans cette situation que je rencontre aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas à quelle porte frapper, à qui demander. Je reconnais que je n'ai jamais fait ça. Enfin, ça, je ne sais pas si je le précise, parce que c'est... On pourrait peut-être trop me situer pour...
Non, ce n'est pas utile. Simplement, je me demande en quoi ces amis à elle peuvent interférer là-dedans. C'est quelque chose entre votre fille et vous ?
Je ne sais pas, est-ce que ça peut pas être une aide, un soutien ? Enfin, je ne sais pas, les amis, je pense qu'ils pourraient aller au-devant d'elle, puisque moi, elle veut couper, elle coupe les ponts avec moi, je ne sais pas, elle ne veut pas... si je lui parle de psychologue, je lui dis, de toute façon... D'ailleurs, je suis sûre que la relation qu'elle a avec ce garçon, avant de connaître ce garçon, elle a eu un autre jeune homme dans sa vie. À ce moment-là, elle habitait la maison. Donc, c'était un jumeau qui était aussi... dont les parents avaient aussi divorcé. Et l'un des deux avait beaucoup souffert de la mère. Et il a fait souffrir ma fille. Et je lui avais dit, puisqu'il l'a laissé tomber, ou je sais plus, enfin bon, c'était... un peu douloureux pour elle, je me rappelle lui avoir dit, écoute, arrête avec ça, tu sortais avant, prends des vacances, enfin, voilà, et puis finalement elle a rencontré celui-là, que j'apprécie pas.
Mais ça, j'ai bien compris.
Non.
Qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Attendez, il voit qu'il n'y a pas d'homme à la maison, il veut prendre le drapeau là pour gérer deux femmes. De toute façon, avec moi ça marchera pas, ça c'est sûr, mais bon, avec ma fille ça m'ennuie beaucoup. Donc
qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle est avec lui? Elle a coupé les ponts avec vous complètement?
Moi, je la vois très peu, hein.
Mais vous la voyez très peu avant aussi, vous me l'avez dit vous-même.
Oui, mais bon, je savais qu'elle était là, je savais qu'elle passait chez sa grand-mère, je c'est vrai, oui, vous avez raison, mais j'ai quand même besoin de la voir, j'ai envie de la voir, je n'ai qu'une fille, quoi. Et puis, je ne suis pas reçue chez elle. Je vois quand les rares fois où elle m'appelle, c'est qu'elle est en voiture. Elle m'appelle parce qu'elle est sur le trajet, travail, retour chez elle, et qu'elle prend un instant pour m'appeler deux minutes pendant qu'elle fait le trajet en voiture. Mmh. Oui. Je n'ai pas le numéro de téléphone de chez elle. Son fixe, elle n'a pas voulu me le donner. Je vois, j'avais des documents à remplir pour justement, Pour des questions de santé, j'avais besoin, elle m'avait dit, essaye de voir si tu peux avoir quelque chose qui soit pas trop loin pour que je puisse passer de voir si tu as besoin de quelque chose. Et ben, finalement, il fallait son adresse. Je lui ai dit, j'ai pas ton adresse. Pourquoi tu veux mon adresse? Ça veut dire quoi?
Aujourd'hui, vous ne savez pas où elle habite?
Si, je connais le lieu où elle habite. L'adresse précise, bon, elle a fini par me donner la rue, enfin bon, elle a fini par me la donner, mais finalement, la demande a été faite, j'ai pas fait la demande avec une adresse complète, puisque je ne l'avais pas. Et quelque part, le problème, c'est que moi, ça me remplit tellement d'amertume et, est-ce que je dois dire, même de dégoût. Enfin, je suis rebutée par cette situation. Je suis rebutée par ces réactions-là que finalement je me bloque et je laisse tomber, quoi. Tout balader.
Anne, quand elle vous a présenté son amie, vous avez réagi comment?
Vous savez, je le revois arriver en culotte courte, est-ce que je dois dire ça? Enfin, excusez-moi, ça paraît un peu ridicule, mais en short, là... pour me dire, en plus c'est pas très grand, voilà, c'est moi, quoi.
Oui, donc vous avez été hostile à lui tout de suite?
Pardon?
Vous avez été hostile tout de suite?
Ah non, j'ai pas été hostile, je leur ai offert pour le restaurant, voilà, non, j'ai pas été, je l'ai accueilli, voilà, tel qu'il était.
Et après?
Ben après rien, j'ai été reçue deux fois chez ses parents. Moi, j'ai pas reçu parce que c'est le bazar chez moi et que je vois pas comment je peux faire.
Mmh. Ce que j'entends, c'est que ça n'a pas collé entre lui et vous, de toute façon, rapidement. Vous le portez pas dans votre cœur, ce garçon.
Je sais pas, le porter. Mais il n'y a pas assez de relations pour. Je sais pas. Le porter. Ben non, parce qu'il fait grand entre ma fille et moi. Je lui ai envoyé un SMS. Enfin là, si j'en dis trop, là, si je dis trop de choses, c'est pas possible. Mais justement, pour. J'ai envie de voir ma fille toute seule de temps en temps. J'ai envie de pouvoir passer un moment avec elle où je puisse échanger, dire ce que je veux, faire ce qu'on a envie. Enfin, voilà, ça doit arriver dans des familles, non?
Est-ce que vous lui avez dit, votre fille, ça?
Je l'ai dit à lui.
Et pourquoi pas à elle?
C'est vrai que l'autre jour, c'est la première fois que ça m'arrive, parce qu'en fait, quand l'amertume est trop grande pour moi, je suis méchante, en fait. Ce que je ressens de dur, ça ressort, quoi. Donc, c'est pas forcément très gentil. Et j'ai quand même rajouté une phrase qui pouvait... d'ailleurs, je pense qu'elle l'a compris, parce que j'ai rajouté que ça m'éviterait beaucoup de peine, quoi, parce que...
Mais le début de la phrase, c'était quoi?
Je me rappelle plus, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des choses, de toute façon, dans la relation... quand il y a des choses, c'est toujours des choses blessantes. Donc voilà, parce que les histoires du passé aussi avec son père, et ben c'est pas fini, parce qu'il y a des choses que j'ai voulu sauvegarder, parce que je me suis dit que ça allait être un drame familial. Et ben là encore, j'ai eu tort. Je suis désolée, mais quand une histoire est finie, elle est finie, quoi. Il faut tourner des pages, et puis quand les gens ils sont morts, et ben ils sont partis.
Est-ce que vous avez vraiment tourné la page, Anne? Vous êtes très inquiète pour votre fille, mais est-ce que vous avez travaillé sur vous? Est-ce que vous avez réussi à fermer cette page du passé, en ouvrir une autre?
Ah non.
Il me semblait bien.
En ouvrir une autre, j'y arrive pas. Mmh. J'y arrive pas, parce que je suis trop seule. Vous voyez, j'avais besoin de débarrasser des choses chez moi et tout, mais j'ai personne pour m'aider. Je trouve pas à être aidée. Dans ces grosses villes-là, on est plus tout seul qu'ailleurs, je pense. On connaît des gens, oui, un peu, mais bon. Trouver un coup de main? Non.
Est-ce que vous avez déjà été suivie par quelqu'un? Est-ce que vous avez pris le temps?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ah ben, j'ai avancé, hein.
Ah.
Ah ben oui. Enfin, j'ai avancé. J'ai pris conscience de certaines choses. Hein. Mm-hmm. Mais bon, est-ce que ça règle les problèmes? Même si on est conscient de certaines choses, les choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas les faire. Après, je veux dire, est-ce qu'il faut aller à l'école? La vie est une grande école. Je sais pas. Il y a des choses que je sais pas faire. Et puis aussi, je pense que la confiance en soi, ou la confiance aussi, en soi et puis en la vie, est quelque chose d'important. Peut-être pas une confiance aveugle, parce que effectivement, j'ai quand même été pas mal abusée, donc c'est bon. Mais...
Un lâcher prise.
Oui, parce que tout peut pas être mauvais, en fait. Il y a quand même un endroit où il y a quand même des personnes. Il y en a, enfin, j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Des gens qui peuvent être valables et qui sont des humains.
Bien sûr qu'il y en a. Vous savez ce qui me paraît compliqué dans votre histoire avec votre fille ? C'est que c'est la rencontre de deux souffrances. Elle traîne avec elle des valises lourdes de cette enfance malheureuse, douloureuse, de ce papa qui est parti. Vous traînez des rancœurs et des douleurs du passé. Et la rencontre de ces deux souffrances est explosive à chaque fois. Si j'entends bien.
Ouais, je sais pas.
Et peut-être qu'avant de commencer à essayer de rétablir des liens apaisés avec elle, vous devriez peut-être travailler sur vous. Vous apaisez vous-même, vous occupez d'abord de vous. Et peut-être que si vous êtes plus apaisé, plus calme, plus moins en colère, la relation avec elle s'adoucira aussi.
Mais dis donc, j'ai l'impression que je suis... Je sais pas. Non, je suis en colère parce que je me heurte à un mur. La colère, elle naît parce que en face de vous, il n'y a personne.
Et si c'était l'inverse ?
Vous avez beau tambouriner, vous avez beau...
Anne, écoutez-moi un petit peu. Et si c'était l'inverse ? Et si c'était parce que vous êtes en colère que vous vous heurtez à un mur ?
Je ne suis pas en colère si je ne me suis pas... si je me suis pas heurtée au mur.
Vous êtes en colère contre votre passé, vous êtes en colère...
Non, c'est vrai que je veux l'obliger, je veux aussi l'obliger, parce que moi, j'allais dire, avec cette situation de décès et tout, je suis rentrée dans quelque chose qui me met mal à l'aise, parce que c'est une obligation juridique, fiscale, enfin bon, c'est un peu compliqué pour moi. Et en plus, je me rends compte que je me suis fait... Je me suis fait avoir à l'époque par des gens qui avaient certaines fonctions. J'ai signé des choses sans lire ni comprendre, ni aller chercher à comprendre ce qui se passait, quoi. Donc c'est des grosses erreurs, ça. Que je, ma foi, j'ai fait des choses parce que ma fille était petite. Aujourd'hui, elle est grande. Et j'aimerais en sortir, mais je peux pas en sortir. Donc je frappe à la porte de ma fille pour lui dire comment on fait. Et on essaye de trouver la meilleure solution. Et là, je raccroche au nez de maman.
Parce qu'il y a des solutions que vous allez devoir trouver sans elle. C'est pas son rôle.
Il faut que je trouve des solutions sans elle. Je me suis rendu compte que c'était de ma faute d'être rentrée dans un truc sans avoir vérifié d'autres
j'aime
choses.
Pas, j'aime pas la notion de faute. Chacun fait de son mieux. Hein. C'est pas une question de faute. Mais tant que vous arrivez chez elle avec des trucs aussi lourds à porter, elle a pas envie de vous ouvrir la porte. Elle a peut-être besoin d'apaisement, elle aussi. Et je pense que si vous allez mieux, le contact sera plus facile et vous irez mieux toutes les deux ensuite.
Pour aller mieux, il faut trouver les solutions aux problèmes qui vous bouffent la vie. Et quand on est liés l'une à l'autre et qu'on ne peut pas se parler à ce sujet, ni à d'autres, puisque de toute façon, et ben, c'est pas facile pour moi.
J'entends bien que c'est pas facile, mais ça doit pas l'être
d'être
pour
apaisée
elle non plus.
Et d'être... Faut faire quoi ? On va se mettre en procès ? Ça veut dire que
c'est pas une solution d'apaisement,
jusqu'au dernier jour de ma vie, je vais devoir payer une signature que j'ai apposée en faisant confiance, en lisant pas, en me renseignant pas, et puis voilà.
C'est pour ça que je vous dis, Anne, il y a la colère en vous, il y a un sentiment d'injustice en vous, et que tant que ça ne sera pas apaisé de votre côté, vous n'arriverez pas à avoir un lien serein avec elle.
Je me suis dit que au lieu de me mettre en colère, même si ça va, je vais devoir porter ça toute ma vie, jusqu'à ce que je meure. Alors, c'est vrai que c'était une image assez récente que j'ai eue. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir le tombeau de mon mari sur moi, quoi. Enfin, c'est quoi cette affaire ? J'ai pas envie de vivre comme ça, moi je peux pas vivre comme ça. Mais bon, comment faire ? Comment faire ?
arriver à vous faire aider pour tourner cette page. On a Sophie qui nous envoie un SMS pour vous, Anne, qui dit « Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas votre fille à l'extérieur de chez vous, puisque vous dites que c'est le bazar chez vous ?»
Ben, ça arrive. C'est arrivé. Pas récemment, puisque d'abord on ne se voit pas beaucoup. Et puis bon, ben, je comprends bien, elle travaille énormément. Elle a des déplacements assez importants, donc je suppose qu'elle est fatiguée. Je pense qu'elle donne beaucoup... Je pense qu'elle donne beaucoup d'elle-même. Bon, ça va bien qu'elle a 35 ans. J'espère qu'elle gardera la forme longtemps. Mais le souci, c'est qu'on ne se voit pas beaucoup.
Vous voyez quand même, alors ?
Pas souvent. Il n'y a qu'une chose qui nous a mis en lien, c'est sa grand-mère. Parce que, comme il n'y a plus de famille et que la grand-mère a été... elle n'est pas très bien, elle m'a demandé de m'occuper un peu de la grand-mère. Donc effectivement, par ce biais-là, d'ailleurs, je me suis dit, ça va rétablir un lien avec ma fille.
Quand vous dites, je ne la vois pas souvent, c'est-à-dire, vous la voyez à quel rythme ?
Là, ça fait bien 3 mois que je ne l'ai pas vue. Hein. Mmh. Et si dans les 3 mois, je l'ai entendue, est-ce que je l'ai entendue 3 fois 5 minutes, je sais pas, hein, c'est peut-être beaucoup. Hein.
Mais je vous reformule la question, est-ce que vous lui avez clairement et gentiment dit « J'ai envie de te voir plus, j'ai besoin de te voir plus », tout simplement.
Non, je lui ai pas dit ça. Non.
Pourquoi ?
Et puis en plus, je n'appelle pas pour pas déranger. C'est rare que j'appelle.
Pourquoi vous n'arrivez pas à dire à votre fille unique « J'ai besoin et j'ai envie de te voir » ?
Vous savez, il y a quelque temps, un matin, je sais pas, je me suis réveillée en me disant « Et si tu allais chez ta fille ?» Parce que, au niveau de ma santé, j'avais quelque chose à vivre, d'ailleurs qui s'est pas fait, mais bon, et qui doit se faire, là. Et je me suis réveillée en me disant « J'ai envie d'aller chez ma fille. » Donc j'ai envoyé un SMS pour lui dire « J'ai envie de venir chez toi. » J'ai trouvé un covoiturage. Elle me répond demain. Je lui dis non, aujourd'hui, j'ai trouvé un covoiturage aujourd'hui. Par contre, je ne sais pas comment je vais rentrer. Alors, je ne sais plus ce qu'elle m'avait répondu. Bon. Et puis, d'un seul coup, elle se met à accepter. Alors, je me suis dit, bon, maintenant, tu ne peux pas faire demi-tour, il faut que tu y ailles, quoi. Mais lui est intervenu, je réentends lui dire « laisse, viens, suis-moi, quoi ». Ça veut dire qu'il voulait l'inviter à me laisser comme ça au téléphone et il partait. Bon, cette fois, c'était super parce que j'ai pu y aller. Je me suis déplacée, on a passé une journée ensemble.
Ben, vous voyez.
Et je suis restée dormir le soir, enfin, je suis restée, je veux dire, c'était pas... ultra confort, hein. C'était même un peu raide, mais bon, je vais pas décrire comment, mais bon, je suis restée, j'étais contente d'avoir pu déjà voir l'appartement dans lequel elle vivait, et puis avoir passé la journée avec elle. Lui était là le soir, bon, ça s'est bien passé aussi, hein. Mais c'est vrai que la relation, elle est pas facile à... Est-ce que je dois dire à mettre en place ? Puis le respect, et puis moi je suis désolée, mais j'ai pas besoin que ce garçon soit là tout le temps.
Enfin attendez, là, vous êtes en train de me dire que vous les appelez chez eux en disant j'arrive, et ça vous pose un problème qu'il soit là tout le temps, vous êtes chez lui quand même ?
Non, c'est pas ce que je viens de dire.
Bah si, un petit peu, vous me dites j'appelle ma fille en disant je viens aujourd'hui, je veux te voir aujourd'hui.
J'ai envoyé un SMS sur son... téléphone portable chez eux parce que j'ai même pas le téléphone.
Ah oui. Est-ce que vous comprenez que ça peut être un peu intrusif quand même comme façon de faire ? Plutôt que de dire quand est-ce qu'on peut se voir, de dire je viens aujourd'hui, point.
Mais j'y vais jamais.
En l'occurrence, si.
J'y suis allée une fois. En 6 ans, c'est quand même pas beaucoup. Hein.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre, entendre que c'est une façon de faire qui peut paraître intrusive pour un homme ? Plutôt que de dire à votre fille, écoute, quand est-ce qu'on peut se voir, à l'extérieur, toutes les deux, de dire, je débarque chez toi aujourd'hui. Ça peut heurter, non ?
Oui, donc il faut que j'accepte d'être à l'extérieur de chez eux.
C'est pas une question d'être, d'accepter, c'est de lui demander ce qui lui convient à elle. Non ?
Ben, je trouve que c'est triste. C'est triste quand on n'est pas en mesure d'ouvrir la porte à sa mère, quoi. Enfin, à une mère.
Mais c'est pas une question de pas vous ouvrir la porte, c'est d'ouvrir la porte quand elle peut. Elle a une vie de femme, elle a une vie de couple.
Bah écoutez, vous savez pas. Moi, j'ai été mariée 7 ans. Ma belle-mère était chez moi tous les soirs.
Ah, bah oui, mais ça,
à
c'était...
À 17h, ma belle-mère était là tous les soirs.
Et ça vous plaisait, ça ?
Elle était dans la boîte aux lettres. Elle était dans le bureau de mon mari. Elle était partout. Était au téléphone, elle était partout.
Est-ce que ça vous plaisait, ça ?
Bah, ça nous a conduit au divorce. Hein.
Alors, est-ce que
d'ailleurs, je me rappelle avoir dit à ma fille... avec les départs de son père, je lui ai dit, quand elle était petite, je ne viendrai jamais chez... Quand tu seras mariée, je ne viendrai jamais chez toi, sauf si tu m'invites.
Et vous avez fait l'inverse.
Pardon ?
Vous avez fait l'inverse.
Mais je ne vais jamais chez elle.
Que vous avez envoyé ce texto en disant « je viens aujourd'hui ».
C'est une fois que je l'ai fait.
Oui, mais ça s'est pas bien passé, vous l'avez mal vécu, et elle aussi.
Si, ça s'est très bien passé.
Non, mais depuis, vous me dites qu'elle veut plus.
Ah, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit.
Alors, ça se passe comment depuis ?
J'ai pas dit, mais depuis, ça se passe comme ça se passait avant, ça veut dire que je l'ai pas beaucoup. Non, ça s'est pas du tout... De toute façon, lui travaillait, donc il était pas là. On a passé la journée ensemble toutes les deux, c'est tout.
Mmh. Je comprends toujours pas pourquoi vous n'arrivez pas simplement à dire à votre fille « Viens, j'ai envie de te voir ». Quand est-ce qu'on se voit ? Quand est-ce qu'on se fait un resto, toutes les deux, un cinéma, un truc ?
Vous voyez, enfin bon. J'espère que c'est pas trop tard, voilà. Je me dis que aujourd'hui, je suis dans le regret d'une vie où j'ai pas pris assez ma place, enfin... Bien sûr, on a vécu ensemble toutes les deux, mais voilà, est-ce qu'on a fait des choses agréables ensemble ? Est-ce que c'était mélangé avec le quotidien ? Je sais pas.
Je pense qu'il serait bien que vous preniez soin de vous pour que quand vous arriviez devant votre fille, vous soyez bien. Que ce soit des moments de bonheur que vous partagiez.
Bah, de toute façon, je lui fais pas porter à ma lettre, hein, je sais pas. Et c'est vrai qu'il faut avoir sa vie à soi. Mm-hmm. C'est vrai que si j'avais certainement un compagnon ou je sais pas, les choses seraient peut-être différentes pour moi parce que...
Probablement.
Parce que j'aurais une vie pleine, oui.
Probablement. C'est pour ça que je vous dis, Anne, occupez-vous de votre vie, prenez soin de votre vie d'abord. Et quand vous serez mieux avec elle, évidemment aussi.
Mm-hmm.
Ça sera plus facile.
Oui, mais il y en a des choses à faire en même temps. Mais bon.
Mais vous, c'est la priorité.
Oui, c'est sûr, c'est la priorité. Avant
vous êtes responsable de votre bonheur, ça c'est sûr.
Voilà. Et en tout cas, ce garçon qui fait tout aussi pour m'empêcher d'être... pour nous empêcher de nous voir, d'être ensemble, pas toute une vie, ni 15 jours, ne serait-ce qu'une journée. Je sais pas, on fait quoi dans ces cas-là ? Rien ?
Je pense que vraiment, il faut vous occuper de vous d'abord, Anne, avant d'accuser, de mettre ça sur les autres. Pour l'instant, prenez soin de vous. Je vous assure que quand vous irez mieux, les relations avec les autres seront plus apaisées aussi. D'accord ? Allô, allô ?
Oui, oui, je suis là.
Bon, je vais devoir vous laisser, Anne, on a beaucoup d'appels ce soir.
Oui, je vous en prie.
Pensez à vous d'abord, d'accord ?
Oui. Merci, au revoir.
Je vous embrasse, au revoir.
La libre antenne. Sabine Marin.
Et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 3921. Le numéro que vous avez composé, Caroline, bonsoir.
Allô, oui.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir Sabine. Voilà, moi je vous appelle pour une histoire, une grande histoire d'amour.
Ah, dites-moi.
Oui, c'est-à-dire que j'ai une grande histoire d'amour depuis 3 ans et demi. Mm-hmm. Et donc, je suis mariée et lui aussi est marié. Mais bon, on est très bien comme ça, vous voyez, on ne veut pas vivre ensemble.
Comment est-ce que ça a commencé cette histoire-là?
Eh bien, ça a commencé, on s'est connus en faisant du vélo. C'est-à-dire que lui, il est très sportif. Et donc, moi, je fais du vélo comme ça l'été, juste pour mon plaisir. Et donc, on s'est connus comme ça. Mm-hmm. Voilà, il y a 3 ans et demi. Donc, on a parlé, tout ça. On a échangé nos téléphones.
Lequel a rattrapé l'autre en vélo?
c'est lui qui va plus vite. Hein. Non, lui, c'est un sportif. Il va faire 3 heures de vélo, vous voyez, même dans des côtes et tout. Non, moi, c'est quand même pas ça. Non, non. Et donc, on a échangé, on s'est envoyé des textos pendant pas mal de temps et on s'est revus après et tout. Et donc, on a commencé à vivre une grande histoire. Et donc, par contre, lui, son couple, c'est assez spécial parce que ils vivent, c'est-à-dire qu'ils font chambre à part et ils n'ont plus de relations sexuelles entre eux depuis pas mal d'années. Voyez.
Comment est-ce que vous savez ça?
Eh ben, c'est-à-dire, c'est ça parce qu'il me l'a dit, mais je suis déjà allée plusieurs fois chez lui parce que je vais toutes les semaines chez lui et je vois bien sa chambre à elle qui est en bas et lui, sa chambre est en haut de la maison. Et donc, non, mais il me l'a certifié, hein, qu'ils n'ont plus de relations sexuelles, mais ils ne font plus rien ensemble, c'est-à-dire que lui, il fait son sport de son côté, elle fait ses activités, même en vacances, ils partent chacun de leur côté, ou alors s'ils partent 3-4 jours ensemble, c'est chez des amis à chaque fois, et même chez les amis, ils ne dorment pas ensemble. Vous voyez, ils font toujours lit à part.
Pour quelles raisons, alors, ils restent ensemble?
Eh bien, c'est-à-dire... Il a pas tellement su m'expliquer, c'est-à-dire il y a pas, enfin quand ils avaient 40 ans à peu près, parce que là lui il en a 59, vous voyez, elle aussi, ils ont tous les deux le même âge, et donc ils s'accordaient pas du tout, vous voyez, il y avait sans arrêt des disputes, le couple n'allait plus du tout, et elle a pris la décision de partir. Elle s'est pris un appart à côté de son lieu de travail, et elle est partie comme ça pendant 5 ans, vous voyez, et donc elle revenait, c'est-à-dire au début, elle ne revenait pas. Puis après, elle revenait les week-ends. Elle revenait de temps en temps les week-ends.
Ils ont des enfants?
Oui, ils avaient des enfants. Oui. Comme ils ont eu des enfants assez jeunes, donc les enfants, ils étaient déjà grands ados, quoi. Voilà. Ils se sont mariés à 20 ans. Donc, même à 40, 45 ans, les enfants, vous voyez, ils étaient déjà ados. Hein. Mmh. Et puis... Donc, elle est revenue les week-ends. Et lui, pendant ce temps-là, il a eu des maîtresses automatiquement. Hein. Il a pris une maîtresse, une deuxième maîtresse. Et par contre, quand elle est revenue... Après, elle lui a demandé si elle pouvait revenir. Au bout de 5 ans, lui, il a dit oui. C'est ça qui m'a semblé. Vous voyez, ça m'a un petit peu semblé bizarre.
Oui, c'est curieux, oui, effectivement. Oui, ils reviennent pour ne rien faire ensemble?
Oui, voilà, voilà. Et en plus, la maîtresse qu'il avait à cette époque-là, elle avait quitté son mari. Pour vivre avec lui, vous voyez. Elle avait quitté son mari pour vivre avec lui et ils ont essayé de vivre ensemble dans son appartement à elle, après dans la maison, la sienne de maison, et ça n'allait jamais entre eux. Donc, ils n'ont jamais vécu tellement ensemble avec sa maîtresse, donc ils continuaient à vivre chacun de leur côté. Et après, donc, quand sa femme est revenue, il a quand même continué avec sa maîtresse à avoir des relations, vous voyez. Et petit à petit, ça s'est passé. Et voilà, ils ont continué donc à vivre comme ça avec elle. Et enfin, ils n'ont plus de relation, c'est ce qu'il me dit.
Et vous, alors, votre couple, il est comment?
Ben moi, mon couple, moi, ça allait très bien. Moi, j'avais un couple qui marchait bien. Mais bon, là, depuis 6 mois, ben, j'ai plus tellement de relations non plus avec mon mari. Ça ne me dit plus rien.
Vous faisiez des activités avec votre mari avant?
Oui, j'avais des activités.
Mais pas le vélo, visiblement?
Non, pas de vélo. Pas de vélo, moi je fais toujours du vélo toute seule, j'aime bien. Et donc, là, depuis 6 mois, j'ai plus de relations sexuelles avec lui. Et puis lui, mon copain, là, il veut plus non plus que j'ai des relations avec mon mari, vous voyez. Ça l'embête énormément. Si j'ai des relations avec lui, là, on a encore eu un conflit dernièrement. Et ça le, vous voyez, ça, quand il pense à ça, ça, vous voyez, ça le traumatise, il ne peut pas supporter.
Oui. Vous, alors, vous en pensez quoi, vous ?
Eh bien, moi, j'en pense que... Enfin, moi, pour le moment, ça ne me dit plus rien non plus avec mon mari. Alors, vous voyez,
il ne pose pas de questions, votre mari ?
Comment ?
Il ne pose pas de questions, votre mari ?
Mon mari, il s'en doute un peu. Hein.
Mais est-ce qu'il vous pose des questions à vous ?
Non, il ne me pose pas tellement de questions. Non. Mais sans doute un peu. Hein. Parce que moi, il a déjà su, moi, pour une ancienne relation que j'ai eue aussi, avec un autre homme. Il l'avait su, alors là, il se doute un peu quand même, là.
Est-ce que vous avez compris ce que vous êtes allé chercher ailleurs ?
Eh bien oui, ce que je vais chercher ailleurs, c'est l'amour-passion, c'est l'adrénaline. C'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai besoin de ça. Je peux pas vivre un amour sans passion. Voyez ?
Oui, mais vous savez que la passion ne dure pas.
Ben oui, c'est pour ça que je veux l'entretenir sans arrêt, la passion. Et je fais des conflits pour l'entretenir, la passion. Et parfois, j'ai toujours besoin de sentir que je vais perdre l'autre, voyez, pour recommencer à l'aimer encore plus fort.
C'est un jeu dangereux.
Oui, c'est un jeu dangereux. J'ai besoin d'être comme au bord d'un abîme, voyez. Je sens que je vais tomber, que je vais le perdre.
Ne mettez pas un pied en avant, je vous retrouve juste après la pub, Caroline, à tout de suite.
D'accord.
Ne bougez pas.
D'accord.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin. Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Déjà, le temps passe vite, mais vous pouvez encore nous appeler pour participer à cette libre antenne. Si nous n'avons pas le temps de vous prendre à l'antenne ce soir, Amandine et Benjamin vous mettront en liste prioritaire et vous rappelleront dès demain. Et on va reprendre notre conversation avec Caroline qui nous disait juste avant les infos avoir une relation avec un homme marié. Elle est elle-même mariée. Caroline, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Alors vous me disiez que vous aviez besoin de ressentir cette passion, ce frisson du début ?
Ah oui, j'ai besoin de cette passion, sinon je peux pas une relation amoureuse sans passion. Alors moi, dès que je sens que je vais me détacher, vous voyez, je vais recréer un conflit pour sentir que je risque de perdre l'autre, vous voyez. Ça, c'est un peu un problème.
C'est un mode de fonctionnement, chacun est libre de fonctionner comme il veut. Oui. Qu'est-ce qui vous ennuie aujourd'hui dans cette situation-là ?
Qu'est-ce qui m'a mise dans cette situation-là ?
Vous ennuie.
Ah non, ça m'ennuie pas, mais là, ce qui s'est passé si dernièrement, sa femme se disant qu'elle savait dès le début que son mari avait une relation. Donc, on n'était pas certaine, mais bon, elle avait des doutes.
Vous parlez avec vous ou avec celle d'avant ?
Avec moi. Ben, celle d'avant, elle l'a su aussi. Hein.
Oui.
Elle l'a su, celle d'avant, puisqu'il a continué avec celle d'avant quand elle était revenue. Et quand elle était revenue chez elle, donc il avait continué avec sa maîtresse à la voir.
A priori, elle n'est pas sourde ni aveugle et elle accepte la situation.
Oui, j'ai l'impression, mais elle lui faisait quand même des scènes de jalousie hein, avec son ancienne maîtresse.
Ah, donc elle n'accepte pas, elle subit.
Elle faisait des scènes de jalousie. Mmh. Et là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que, bon, se disant qu'elle a des doutes encore et tout ça, quand elle rentre, elle est toujours en train de le regarder, elle le sent, vous voyez, elle le sent avec son nez, quoi, elle le sent, vous voyez, pour voir s'il sent l'odeur de quelqu'un d'autre, vous voyez. Mmh. Et donc, là, dernièrement, hier, déjà au mois d'août, elle m'avait appelée sur mon portable. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro.
Comment est-ce qu'elle a fait pour l'avoir ?
Eh bien, comment elle a fait pour l'avoir ? Là, dernièrement, aujourd'hui, il m'a dit que sans doute qu'elle est allée dans son téléphone. Elle a su son code secret, et elle est allée dans son téléphone.
Vous avez échangé des messages ?
Avec sa femme ?
Non, avec lui, tous les deux.
Ah ben, on échange toujours des textos, hein.
Oui, donc elle les a vus.
Oh ben on échange des textos, au moins une vingtaine par jour, des textos. Alors, et donc, au mois d'août, elle m'avait déjà appelée, mais elle m'avait appelée de son fixe. Mais moi, comme je connaissais le numéro de son fils, j'ai su que c'était elle m'avait pas laissé de message. Mais hier à 21h, parce qu'ils ont eu tout un tas, elle est tombée sur le dos, elle lui a pris la tête et tout, à 21h, elle m'a appelé. Et là, elle est encore tombée sur mon répondeur, parce que j'avais pas mon portable sur moi. Et elle m'a laissé un message sur mon répondeur, en me disant, voilà, bonjour, je suis, donc elle m'a dit son nom, vous devez savoir qui je suis, pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît, qu'elle m'a dit.
Oui. Quelle a été votre réaction à ce moment-là?
Ben moi, j'ai écouté son message, mais je me suis dit, est-ce que je la rappelle, est-ce que je la rappelle pas? Je l'ai pas rappelé et j'ai demandé conseil à mon ami, à mon copain là, et il m'a dit non, ne la rappelle pas.
Ah oui, évidemment.
Oui,
le contraire m'aurait surprise.
Oui, évidemment. Et là, le plus embêtant, c'est qu'elle lui fait un peu du chantage. C'est-à-dire, à chaque fois, elle lui dit, je vais partir. Je vais partir, vous voyez? À chaque fois, elle lui dit ça.
Mais vous croyez vraiment que c'est à vous de gérer ça? C'est pas plutôt à lui?
Oui, bah c'est lui qui gère ça. C'est lui, il m'a raconté tout ça, là, il m'a appelé cet après-midi au téléphone. Et donc, lui, ce qu'il a peur, c'est qu'il soit obligé de vendre sa maison. Si elle veut encore partir, vous voyez, et qu'elle lui fait vendre sa maison. Bon, lui, il tient énormément à sa maison, il a fait pas mal de choses dedans. C'est ça qui est un peu embêtant. Et moi, ça me concerne quand même parce que
Dis
je me
donc, il
dis.
voudrait pas un peu le beurre et l'argent du beurre, ce
Et
monsieur?
oui, il a craigné avec et tout.
Mais ben oui, c'est ça. Hein.
Oui.
Et quand on dit la crémière, vous savez à quoi on pense?
Comment?
C'est pas l'expression complète, la crémière. Il y a autre chose avant, mais bon.
Ah oui,
Non,
il y a quelque chose
non, mais
avant.
sérieusement, faites attention à vous quand même dans cette histoire. Hein.
Oui, c'est certain. Mais bon, comme moi, on lui tient à moi, je tiens à lui aussi quand même. Mais
Mais
bon.
comment vous vous sentez par rapport à elle?
Eh bien, par rapport à elle, souvent je fais des conflits par rapport à elle. Souvent, hein.
C'est-à-dire.
Ben, c'est-à-dire qu'elle m'embête un peu aussi. Hein. Elle m'embête un peu parce que, c'est-à-dire que lui, il la critique jamais. Jamais la critique. Vous voyez? Tout ce qu'elle fait, en fin de compte.
C'est pas très clair, hein, ça, son positionnement dans cette histoire, lui. Hein.
Non, ça m'a semblé toujours un peu.
Il joue sur tous les tableaux, j'ai l'impression. Hein.
Ouais. Mais pourtant. Non, parce que moi je connais son meilleur copain, il m'a dit non, ils ont jamais on les voit, voyez, se faire de bisous, ni se tenir la main, ni rien. Ils ont l'air vraiment d'un couple vraiment sans relation. Hein.
Si c'était ça, elle serait pas jalouse, elle serait pas malheureuse.
Oui, c'est pour ça que je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas du tout de relation sexuelle ensemble et pourquoi elle te prend la tête, elle te fait des crises comme ça.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous
Oui.
dit?
Bah, il ne sait pas quoi répondre, il dit
Ouais.
bah oui, mais.
Bon, je veux pas faire de généralité, Caroline, mais le nombre d'hommes qui trompent leur femme en disant à leur maîtresse qu'ils n'ont plus de relation avec leur épouse,
Oui,
c'est un petit
ça.
peu un grand classique, hein.
Oui, je sais que c'est un grand classique, hein. Ça, je sais très bien. Mais si jamais je lui dis ça, il va se fâcher, il va dire tu me crois pas, tu me fais passer pour un menteur. Vous voyez, il va me dire ça.
Qu'est-ce qui vous ennuie le plus aujourd'hui alors, finalement?
Ben moi, ce qui m'ennuie, c'est que il va être obligé de prendre davantage de précautions maintenant. Et est-ce que je vais pouvoir retourner chez lui? Parce que tous les lundis, j'allais chez lui. On se voit à peu près 3 fois par semaine. Tous les lundis, j'allais chez lui parce qu'elle allait à son sport, tout ça. Alors maintenant, il va prendre des précautions. Je vais peut-être plus pouvoir aller chez lui. Vous voyez, tout un tas de choses. Et j'ai pas envie de perdre cette relation-là parce que on fait tellement des choses. Vous voyez, super.
Vous avez l'air plus inquiète pour elle que pour votre mari à vous.
Ben, mon mari.
Inquiète de sa réaction à elle, je veux dire, que la réaction de votre mari à vous.
Ah oui, non, mais mon mari, ça va parce que la dernière fois, il m'a pardonné. Non, mon mari, j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Parce que lui, il veut pas me perdre, alors il passe là-dessus. Hein. Il passe là-dessus. Parce que quelquefois, je pars 3 heures faire du vélo, alors il se doute bien que je vais pas faire 3 heures du vélo. Hein. Ça, il se doute bien, mon mari. Il sait très bien que je ne vais pas partir 3 heures faire du vélo. Hein. Ou alors
Vous
quand
pensez qu'il s'en accommode?
Oui, ça m'accommode. Oui. Ou quand je vais marcher à pied, comme hier, il y avait pas mal de vent, il pleuvait. Je suis allée marcher à pied. Et comme c'est comme ça, il me prend en voiture. Vous voyez. Je vais à pied parce qu'on habite à une campagne pas très loin de Paris. Il me prend à pied et je vais partir 2 heures comme ça. Bon, mon mari sait très bien que je ne vais pas aller marcher 2 heures, 2 heures et demie comme ça. Vous voyez. Non, il m'en doute, mais maintenant il ne me dit plus rien.
Est-ce que vous avez des amis qui savent?
Est-ce que vous avez.
Des amis qui savent à qui vous avez
Ah
parlé de ça.
oui, j'ai plein de copines, oui, enfin plein de copines, j'ai 2 copines qui sont au courant de tout.
Qu'est-ce qu'elles en pensent, elles?
Bah, elles en pensent que je vis une belle relation, hein, quand même. Elles me disent d'en profiter. Hein. Elles me disent d'en profiter. Hein. Parce que j'aurais du mal à vivre sans, vous voyez. Je serais obligée de retrouver encore quelqu'un et je ne serais pas certaine de vivre ce que je vis en ce moment. Hein.
Vous avez besoin de vibrer comme ça tout le temps?
Oui, j'ai toujours besoin de vibrer. Oui, oui, oui. Oui, oui.
Donc, la question que vous vous posez ce soir, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce message? Qu'est-ce que vous en faites?
Oui. Qu'est-ce que je fais avec ce... Moi, j'avais envie de lui envoyer un texto. À quoi ça sert que je vous appelle? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça fera encore plus davantage d'histoire ou...
Bah, c'est bizarre. Moi, il me semble que c'est un... Soit vous vous positionnez en disant, OK, on met tout à plat et on se parle.
Oui.
Soit vous ne faites rien.
Oui,
lui,
oui, oui.
Lui dire, je vous réponds, mais pour vous dire que je ne vais pas vous répondre.
Oui.
Bon.
En fait, je veux dire.
Ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi.
Mais c'est-à-dire parce qu'elle, elle veut qu'il avoue. Sans arrêt, elle lui prend la tête. Elle lui dit, mais dis-moi la vérité. Je sais que tu as une maîtresse. Dis-moi la vérité. Et lui, il ne veut pas lui dire. Il ne veut pas lui dire. Vous voyez, je lui dis, dis-lui la vérité. Peut-être que ça arrangerait les choses. Parce qu'elle, elle sait très bien, mettons, sinon plus de relations sexuelles, que lui, il est obligé d'aller voir ailleurs, quoi. Mmh. Vous voyez ?
C'est pour ça que je vous dis qu'il me semble que c'est à lui de gérer cette histoire.
Oui.
Vous êtes tous des adultes consentants dans cette relation.
Oui,
je ne pense pas que ce soit à vous de la gérer. Ou alors, si vous la gérez avec elle, vous savez que c'est la porte ouverte au conflit.
Ah bah oui. Non,
ça va dégénérer entre lui et elle,
oui.
Et donc entre lui et vous derrière.
Ah oui. Puis lui, il va pas aimer, voyez. Mais surtout que elle a déjà retrouvé des choses. Elle retrouve des cheveux parce qu'elle est brune et moi je suis blonde, voyez. Elle retrouve des cheveux longs blonds. Alors, ça, elle le voit bien. Des fois, elle lui sort un cheveu comme ça, voyez.
En même temps, vous prenez de grands risques, hein, vous le savez.
Oui. Je prends des risques de tomber sur elle. Vous voulez dire.
Ben oui.
Oui. Mais bon, si je tombe sur elle, ça c'est pas mon affaire. Hein. Ça, il règle ça avec elle à ce moment-là. Parce que c'est lui qui me dit d'aller chez lui quand elle va à sa séance de yoga. Hein.
C'est bien pour ça que je vous dis que c'est à lui d'assumer finalement tout ça. Hein.
Oui, c'est à lui.
Moi,
d'aller.
Je pense que franchement, à votre place, je bloquerai le numéro de téléphone.
Adèle ?
Ben oui. Je vous le dis comme je le pense. Hein. C'est... Oui. Soit une fois de plus, soit vous prenez votre place et vous dites « Ok, je veux régler ça, je veux parler avec elle, mais vous savez très bien que ça va vous amener tous au conflit. » Et c'est pas ce que vous voulez.
Oui.
Bah, voyez, sauf là, vous dites, bon voilà, moi je vis ma vie de mon côté avec lui, c'est sa responsabilité à lui, c'est pas la mienne.
Là, il vient de m'envoyer un texto, je vois son nom, un texto qu'il vient de m'envoyer.
On vous dit, on raccroche tout de suite. Arrête.
Non, non, parce qu'ils avaient une soirée ce soir, donc elle pouvait pas lui faire la tête, parce qu'ils avaient des invités ce soir, c'est pour ça qu'il m'envoie un texto assez tard. Mmh. Et donc, voilà, alors il va me dire comment ça va se faire, là. Est-ce qu'elle va encore lui en parler sans arrêt
Ah bah oui, mais ça...
C'est-à-dire qu'elle fait du chantage, en fin de compte, voyez. Parce que lui, bon, il sait très bien que moi, je ne vais pas vivre avec lui, voyez. Il le sait très bien. Et lui, c'est pareil, il n'aime pas vivre seul, voyez. Et puis en plus, elle fait bien la cuisine. C'est vrai qu'elle fait très bien la cuisine. Et donc, elle lui fait des bons plats.
Il garde les avantages des deux côtés, donc. La maison, la bonne cuisinière et la maîtresse.
Voilà.
Et bien donc, c'est à lui de gérer les problèmes, c'est pas à vous.
Moi, je ne sais pas cuisiner, comme je l'ai dit, je ne sais pas cuisiner. Alors, c'est pas moi qui te ferai des bons petits plats, hein, c'est certain.
Caroline, s'il a tous les avantages, il faut aussi qu'il ait les inconvénients de la gestion des problèmes et des conflits.
Ben voilà.
Il me semble bien que vous me posez la question, est-ce que je dois la rappeler, vous savez déjà que vous n'allez pas le faire.
Ah non, je ne vais pas la rappeler.
On est bien d'accord.
Non, je ne vais pas la rappeler, ça ne servira à rien. Je vais bien voir comment ça va se passer, tout ça. Il va régler ça avec elle. Peut-être qu'elle va se calmer. Voilà. Elle a peut-être l'impression qu'il a repris avec l'ancienne personne, j'allais dire l'ancienne secrétaire parce que c'était sa secrétaire justement. Elle a l'impression, peut-être qu'elle croit qu'il a repris avec l'ancienne et voilà.
Et avoir des relations avec des hommes libres, ça vous tente pas?
Non, parce que les hommes libres, ils vont m'embêter. Hein.
Ça va mettre en péril votre couple.
Oui.
Et oui.
Ils vont m'embêter dans mon couple. Non, ça me dit rien, les hommes libres. Ou alors un homme libre qui veut rester libre, quoi.
Ouais.
Oui, lui qui veut rester libre. Un homme marié, c'est mieux.
En tout cas, Caroline, vous l'avez la réponse à votre question?
Oui, j'ai la réponse à ma question. Oui.
Vous bloquez le numéro, vous vivez votre vie, vous laissez gérer ses problèmes.
Oui, mais j'espère qu'il ne va pas avoir peur et ralentir un peu notre relation, quoi. C'est ça qui m'embête.
Ah, c'est aussi le risque quand on partage quelqu'un.
Ouais,
pas tout avoir.
Oui, ce qu'on m'a dit, lui, il ne peut pas m'avoir entière et moi, je ne peux pas l'avoir entière.
Vous voulez le frisson, c'est aussi le prix du frisson.
Oui, c'est ça.
Et oui, c'est un choix.
Oui. C'est un choix, voilà.
Et protégez-vous, faites attention à vous quand même, hein, dans cette histoire.
Oui. Sinon, vous êtes en courant de la suite, je vous dirai.
D'accord.
Ce qui va se passer.
Okay.
Pour le moment, je vais lire son texto déjà. Voilà.
Bon, bah merci de votre appel, Caroline, je vous embrasse.
D'accord, et bonne fin de soirée.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et c'est Lily maintenant que j'accueille sur cette Libre Antenne. Bonsoir Lily.
Oui, bonsoir Sabine.
Alors dites-moi un petit peu ce qui vous amène, Lily.
Écoutez.
Je ne fais que ça.
Désolée. En ce sens, j'allais dire désespérée, mais c'est un bien grand mot par rapport à ce que je vais vous raconter. Il y a à peu près 3 semaines, j'avais commencé à m'arrêter de nouveau de fumer. J'ai 64 ans.
Oui.
J'ai commencé à fumer en 16-17 ans.
Pour faire comme les grandes, j'imagine.
J'étais timide. Alors, ça me permettait de ne pas montrer que j'étais timide. Je demandais l'heure, du feu, oui, des conneries comme ça.
Ça donne un genre, quoi.
Voilà.
Et oui.
Et puis, elles étaient belles, les cigarettes. C'était un beau paquet avec une encre marine dessus. C'était beau.
Ils sont forts, les publicitaires. Chouette, hein. Oui,
ça faisait chouette. Et puis, ça sentait bon. Et puis, c'était... quand j'étais chez les bonnes sœurs, c'était l'interdit. On avait le droit de fumer que le jour de la Sainte-Catherine.
Ah oui.
Oui, c'était la fête à la Sainte-Catherine. Ben oui, les sœurs, elles fêtaient Sainte-Catherine chez les filles. Attendez. Une gloire d'être célibataire, Madame Plaisant.
Donc, vous commencez à fumer vers 15-16 ans.
Voilà.
Et après?
Et puis, ben, je fume. Puis, à l'époque, vous vous souvenez, c'était pas dangereux.
Ouais,
on disait que c'était même bien de fumer.
Ah, puis il y avait toutes ces pubs qui mettaient, même dans les cinémas, dans les films, on voyait tous ces types qui avaient de l'allure avec la cigarette. Il y avait le cow-boy Marlboro, tout ça.
Ouais, et puis
ça faisait bien. Dans les débats politiques, il y avait les gens qui fumaient à la télé aussi.
Oui, il y avait un très beau garde avec ça. Non.
Ça véhiculait l'image de quelque chose de classe, de,
ouais.
De rebelle en même la, temps, tout ça.
La,
bien sûr.
La Sapritch avec son fume-cigarette. Il était beau, son fume-cigarette.
Ou comment se laisser influencer pendant des années?
Absolument.
Donc, vous fumez combien? Vous arrivez à combien, maximum?
Alors, je me suis arrêtée il y a 3 semaines, là,
oui.
Parce que je me suis fait peur. Je me suis rendu compte que j'avais fumé un paquet pour 24 heures.
Vous n'aviez jamais atteint cette quantité-là?
En tout cas, je n'en avais pas conscience.
Un paquet de vin, c'est ça?
Oui. Ouais, les bonnes gauloises derrière les fagots, c'est le qui pue, les gauloises du prolétaire.
Un paquet par jour, c'est 7300 cigarettes par an. Vous vous rendez compte?
Oh que oui, je me rends compte.
7300 cigarettes par an.
Quand on voit toutes les saloperies qu'il y a dedans, il y a 8000 substances. Mais...
Dont 4000 cancérigènes.
Ah la vache.
Comme vous dites, oui.
Il n'en faut qu'une pour avoir le cancer, hein.
Donc, vous essayez d'arrêter, et qu'est-ce qui se passe là?
Et alors, là, ce qui s'est... Alors, d'abord, j'ai appelé Tabac Info Service, j'ai fait tout bien comme il faut. Et puis, d'abord, je me suis arrêtée quand j'étais enceinte.
Oui, ça, comme par hasard, on y arrive quand on est enceinte. Hein.
Et on ne disait pas à l'époque où je suis tombée enceinte, en 83, que c'était dangereux pour les enfants, pour le fœtus. On ne le disait pas. J'irai cracher mordu, on ne me l'a jamais dit.
Oui. Vous avez arrêté quand même?
Oui.
Non, tant
quand
mieux.
Même. Je me suis dit, c'est pas bon, quand même. Et puis, quand j'ai accouché, ma mère m'a fait des scènes de jalousie absolument épouvantables. Enfin, je ne vous raconte pas. Et moi, toute contrariété m'incite à fumer une clope, comme l'alcoolique se boit un verre.
Parce que tout le monde sait que la cigarette résout les problèmes.
Mais bien sûr. Mais moi, je l'appelle la cigarette à cancer.
Oui.
La sucette à cancer. Parce que c'est comme la sucette du bébé, comprenez?
Ah, vous ne croyez pas si bien dire. J'explique souvent à mes patients que les fumeurs ne sont pas des adultes. Il y a une partie d'eux qui est un enfant, qui a besoin d'être rassuré, qui se rassure en tétant sa cigarette comme s'il tétait sa maman.
Mais absolument, absolument, j'en suis convaincue. Mais comment vous expliquer? Donc là, je m'étais arrêtée, je me fumais bien une petite clope de temps en temps. Je trichais un peu avec le patch, hein? De temps en temps. Et ça n'allait pas plus loin. Et là, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Et oui, sinon, ce ne serait pas un ami. C'est idiot de dire un ami que j'aime beaucoup. Et excusez-moi, j'essaie de parler avec bonne humeur.
Mais vous le faites très bien, ça fait du bien aussi.
Ben oui, écoutez, on n'est pas obligé de se lamenter dans la vie, même quand on est triste.
Alors donc, votre ami que vous aimez, qu'est-ce qu'il vous fait? Il fume à tous les coups.
Comment?
Il fume.
Ah, pas du tout, il ne fume pas, il ne picole pas, rien.
Ben dites donc.
Boum, fatigue, quintuple pontage.
Ah.
Je me suis dit, ça ne sert à rien de s'arrêter, mais ce n'est pas pour ça. C'est qu'en plus, en pleine opération ou juste après, on ne sait pas, il s'est fait un AVC. Il a un caillot qui est bloqué dans le tronc cérébral.
Oui.
Bordel, quoi. Alors, il est paralysé. Il ne parle plus. En plus, depuis sa plus tendre enfance, il est aveugle.
Mm-hmm.
Ça me fout les boules, mais vraiment, ça m'a... Je ne peux pas savoir ce que ça m'a fait. Là, vraiment, c'est terrible, quoi. Du coup, bah, je me suis remise à fumer. Je trouve ça désolant, quoi. Je suis désespérée d'être aussi addict à ce sale produit. Parce que je pense que la cigarette vous fait croire que c'est une amie.
C'est juste une amie qui...
C'est une charmeur de serpent.
La cigarette est une amie qui veut votre mort, donc c'est pas une amie.
Mais non, elle vous le fait croire. Mm-hmm. Vous savez, comme dans les contes où il y a le serpent qui vous charme.
Oui.
C'est du même ordre.
Et surtout, vous faites bien de parler d'addiction. La cigarette est une drogue et on devient addict. Mais et la volonté n'a rien à voir là-dedans. J'ai beaucoup de gens qui s'en veulent et qui me disent « je m'en veux de ne pas réussir à arrêter de fumer ». La volonté n'y est pour rien là-dedans. Est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans le cerveau?
Oh oui, je veux bien.
Pour mieux, quoi, mieux
pour me convaincre.
Vous convaincre de quoi? D'arrêter.
Pour me motiver davantage pour m'arrêter de fumer.
C'est pas pour vous convaincre d'arrêter, c'est pour vous expliquer pourquoi vous êtes accro.
Parce que je suis convaincue que je dois m'arrêter.
Je vais vous expliquer deux, trois petites choses intéressantes. Et pour ça, je vais vous parler d'hypnose, parce que c'est un domaine que je maîtrise très très bien, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'hypnose.
Est-ce que je peux vous interrompre une seconde?
Allez-y.
J'ai pas les moyens de m'offrir une hypnose actuellement.
C'est pas grave, ce que je voulais vous expliquer, c'est l'hypnose, c'est comprendre comment notre cerveau fonctionne. Donc vous expliquez deux, trois choses importantes, d'accord?
D'accord, je veux bien tout.
Alors, l'état d'hypnose, déjà, c'est un état que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'est un état dans lequel on se met soi-même plusieurs fois dans la journée. Par exemple, vous êtes en train de lire un bouquin dans votre lit, tout le monde connaît ça, et puis vous vous dites « waouh, ça fait 5 minutes que je suis sur la même page ». Vous connaissez ce sentiment?
Ou
d'un,
oh
seul
là
coup,
là, oui.
D'un seul coup, vous avez décroché, vous ne dormiez pas, mais vous n'étiez pas non plus complètement là. Ou alors vous êtes à un dîner, à une réunion avec des gens qui vous enquiquinent un petit peu. Vous êtes là, vous avez la tête sur la main, et puis vous regardez par la fenêtre, et puis d'un seul coup, quelqu'un vous dit « hop là, tu m'écoutes ?» Oui, bien sûr.
Oh oui.
Vous connaissez ce sentiment-là?
Oui.
Eh bien, techniquement, quand on fait ça, on se met soi-même en état d'hypnose. C'est-à-dire que notre cerveau descend en onde alpha. Quand on est parfaitement présente à ce qu'on fait et ce qu'on dit, comme vous et moi en ce moment, j'espère, le cerveau est en onde bêta, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des ondes assez rapides. Dès qu'on décroche un tout petit peu, yoga, méditation, sophrologie, hypnose, on descend en onde alpha. C'est simplement une onde dans laquelle on se calme, où les choses se posent un petit peu. Et vous, les deux parties du cerveau fonctionnent, communiquent mieux l'une et l'autre. Pourquoi je vous parle de deux parties? Parce que schématiquement, notre cerveau est coupé en deux. À gauche, vous avez la partie consciente, qui abrite la volonté. Et on va en parler pour la cigarette. À droite, vous avez l'inconscient, qui est le cerveau émotionnel. Pour info, le cerveau conscient, le cerveau intellectuel à gauche, ne gère que 15% de ce que nous sommes. Ça veut dire que même debout sur ses petites pattes arrière, la volonté, elle ne gère que 15%. C'est pour ça que quand on veut quelque chose... Si l'autre côté ça coince, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Première chose à comprendre. Donc déjà, déculpabilisez-vous, ça n'est pas la volonté qui nous aide à arrêter de fumer, malheureusement.
D'accord.
Ensuite, cet état d'hypnose dont je vous parlais, pour entrer en état d'hypnose comme ça, comme par exemple quelqu'un qui est dans le métro, vous voyez quelqu'un qui est debout, qui tient la rampe du métro, ça bouge, il y a du bruit, il y a des gens qui passent, et quand vous regardez les yeux de la personne, vous avez l'impression qu'elle n'est pas là, elle est partie.
D'accord.
Vous avez souvent ça, vous pouvez passer de la main devant le visage de quelqu'un qui est dans le métro debout, il est complètement barré dans ses pensées, parti dans ses pensées. Ça, c'est l'état d'hypnose. Comment est-ce qu'on provoque cet état-là? Eh bien, en saturant trois sens. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. en saturant trois sens. Nous avons tous cinq sens. La vue. D'accord, Louis. Le toucher.
Ah, moi, je vous arrête. La vue, je ne l'ai pas.
Alors, sauf accident ou handicap de naissance ou après, à l'origine, nous avons à peu près cinq sens. Nous avons cinq sens, d'accord ?
Non, mais je vous dis, c'est pour que vous vous adaptiez.
J'ai bien compris, mais vous vous adaptez. Voilà. D'accord, mais là, en l'occurrence, quel que soit les, vous avez, lequel vous manque, la vue ?
Oui.
D'accord. Mais ça ne change pas, vous allez comprendre pourquoi ça ne change pas grand-chose.
Mais tant mieux.
À l'origine, on a cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ou quatre, d'accord, quand il nous en manque un, de naissance ou après accident, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Non, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que pour entrer en hypnose, il suffit d'occuper trois sens. L'imagination, on pense, l'image, que vous l'ayez l'image en visuel ou en imaginaire, c'est la même chose.
Je suis d'accord.
Le son, on vous met une musique ou quelque chose. Et puis par exemple, le ressenti, vous vous focalisez sur la respiration, sur des choses comme ça. Si trois de vos sens sont occupés, vous rentrez en hypnose. La cigarette, elle occupe cinq de vos sens, en l'occurrence pour vous quatre, en permanence. Elle occupe la vue. Vous me parlez tout à l'heure de la beauté du paquet. Vous l'avez quand même vu une fois, ça, au moins.
Moi, je l'ai touché, il était beau.
Vous l'avez touché, donc vous passez par le toucher. Mais la cigarette, pour la majorité des gens, elle occupe bien sûr la vue avec le packaging et l'objet. Et puis, il y a ce petit ancrage, vous savez ? Ce petit bruit.
Oui.
Qui est le bruit de l'allumette ou du briquet que vous avez oublié, mais que depuis des années, vous accompagne.
Ah oui ?
D'accord ? Ensuite, il y a bien sûr le toucher. Tous les fumeurs aiment avoir la cigarette dans la main, ça les occupe.
Il y en a qui sont belles, regardez les cigarettes toutes minces, comme celles qu'ils vendent en Angleterre, très longues, très minces, très belles.
Donc ça, c'est le toucher. Vous avez l'odorat, bien sûr, ça occupe l'odorat. Et la bouche, le goût, puisque vous l'avez dans la bouche.
Oui, la bouche, c'est important.
Donc la cigarette occupe vos cinq sens, en l'occurrence pour vous, aux quatre sens.
Non, mais on s'en fout.
On va dire
les cinq, parce qu'on parle à tout le monde.
On dit les cinq, on est d'accord, ce qui veut dire qu'elle vous tient en hypnose en permanence. Eh oui. Pourquoi croyez-vous que des publicitaires se battent depuis des années pour que les pubs se fassent en odorama maintenant ? Parce que la pub occupe déjà votre sens visuel, l'auditif, l'auditif bien sûr, le kinesthésique puisque ça bouge. Si on rajoute l'odeur, croyez-moi que la première pub pour une pizza, vous allez courir pour acheter la pizza.
Déjà, je sois une clope dans la rue, j'ai envie de m'en taper une.
Eh oui, la cigarette vous tient en hypnose en permanence. Elle occupe vos cinq sens tout le temps. Et donc, l'air de rien vous coince.
Ah là 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 là.
Eh oui, c'est pour ça que la volonté n'y peut rien. Et donc le meilleur moyen de se débarrasser de ça, c'est de remplacer ses cinq sens par autre chose. Alors soit on se fait aider quand on peut, soit on le fait tout seul.
Je ferai tout seul.
On remplace la vue par des images. Alors quand c'est tout seul, je vous dirais par des images un petit peu difficiles à soutenir. Ou en tout cas des descriptions d'images pour vous, de gens, de choses, de conséquences du tabac sur les poumons par exemple. Imaginez vos poumons couverts de goudron, couverts de nicotine.
Un bon accident vasculo-cérébral qui va vous laisser.
Voilà, vous gardez cette image-là, par exemple.
Ah oui, ça ne fonctionne pas.
Alors, le son, moi je remplace ça pour mes patients par la musique de la séance sur laquelle nous travaillons, ce qu'on appelle un ancrage aussi. Vous pouvez aussi travailler sur une musique de décontraction que vous trouverez sur des sites, vous savez.
Il est mort, mon ordi.
Vous avez quoi, pardon ?
Il est mort, mon ordi. J'ai plus d'ordi.
Bah vous pouvez écouter de la musique autrement, j'imagine. Sur un lecteur de CD, sur une télé.
Je veux dire, vous pouvez nous conseiller un truc que je pourrais acheter à la Fnac, par exemple.
Je vous dirais ça tout à l'heure hors antenne. Il faudra que je réfléchisse à un listing de titres, de choses comme ça. Déjà, simplement vous posez vous-même en vous concentrant sur la volonté d'arrêter. En vous disant simplement, je choisis maintenant d'arrêter et je me passe cette musique-là à chaque fois que je me concentre sur ce choix-là. Je choisis, moi, d'arrêter. C'est une sorte d'autoprogrammation, vous voyez ?
Oui, très
bien. Juste vous concentrer là-dessus. Je choisis d'arrêter. Je choisis de redevenir non-fumeuse. Et vous écoutez cette musique tous les jours. Ensuite, vous remplacez le mouvement, parce que tous les fumeurs aiment avoir quelque chose dans la main. Moi, j'aime bien donner à mes anciens fumeurs un petit galet. Un petit galet tout doux qu'on peut avoir dans la main. Vous savez, comme une petite pierre, comme ça. Que vous pouvez avoir envie de tripatouiller, plutôt que de tripoter une cigarette.
Moi, c'est vrai que je m'étais acheté des pailles. J'ai fumé ma paille.
Oui, mais la paille vous remet dans le même geste. Vous voyez, le fait de remettre un truc comme ça dans la bouche avec un geste similaire, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, ensuite, l'odeur, vous allez acheter de l'huile essentielle de menthe poivrée. Parce que l'huile essentielle de menthe poivrée, entre autres, en pharmacologie, a pour but de couper l'envie de fumer.
Ah, très bien.
Donc vous la mettez sur un petit Kleenex ou sur le poignet de la main, vous la sentez à chaque fois qu'une envie monte, et vous allez voir qu'en quelques secondes, ça passe. Autre chose intéressante, on a remarqué qu'une envie de fumer, ça dure 17 secondes. Ça vient, ça repart, et ça dure 17 secondes. Si pendant ces 17 secondes, pardon, vous arrivez à résister, eh bien ça passe. Vous savez, c'est comme un enfant mal élevé, l'envie de fumer. Si à chaque fois qu'elle vient réclamer un bonbon, vous lui donnez, ben elle va réclamer pendant 20 ans. Si vous lui dites non, 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 17 secondes, c'est bon, je peux tenir. Je sens mon huile essentielle de menthe poivrée, je prends ma petite pierre, et ça passe.
Il reste, je trouve une petite pierre.
Voilà, il reste un dernier sens, la bouche. C'est pas moi qui vais vous dire par quoi vous pouvez remplacer cette habitude. En fait, l'idée globale, c'est de ne pas laisser de vide. Si ces cinq sens-là étaient...
Bon, on manque une bêtise comme ça.
On va y venir. Si ces cinq sens-là étaient occupés par la cigarette, il faut les remplacer absolument par autre chose. Sinon, vous allez compenser de manière pas terrible. Vous allez prendre du poids ou prendre des choses trop sucrées ou prendre une autre, être addict à autre chose. Oui. Donc l'idée, c'est de remplacer ces cinq choses-là par quelque chose de sain. Et donc effectivement, vous pouvez vous dire, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma bouche à la place de sain, de bon, des fruits secs, des bonbons sans sucre, du thé, non, du café, des fruits. Quelque chose que vous savez être bon pour vous et qui remplace une habitude. Parce que quand on enlève une habitude, il faut la remplacer par une autre.
Alors quand on a l'habitude de boire du café, il faut boire autre chose.
Par exemple, et autre information intéressante, notre cerveau a besoin de 28 répétitions pour intégrer un nouveau mode de fonctionnement. Ça veut dire que quel que soit ce que vous voulez changer, si vous faites quelque chose d'autre 28 fois, ça devient une habitude. Alors je ne dis pas que c'est facile. C'est un entraînement, c'est une contrainte pendant 28 jours. Mais quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous instaurez une nouvelle habitude 28 fois et ça y est, c'est intégré par le cerveau.
Oh, c'est formidable.
Tout ça sont des clés pour vous aider et ça fonctionne vraiment très bien. Donc la vue, c'est vrai que la vue, moi, pendant les séances, je la remplace par des images que je suggère à mes patients. Ça peut être des images de leur poumon, effectivement, ça peut être d'autres images. Connectez-vous aussi à la petite fille que vous étiez. Imaginez que cette petite fille que vous étiez vous regarde avec de grands yeux et vous dise « Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça avec ma vie ? Avec mon corps ? Pourquoi t'as fumé ?»
Oh, vous êtes formidable.
Et là, vous prendrez le recul nécessaire. Ensuite, vous remplacez les cinq sens. Et puis, vous me rappelez dans 3 semaines à moi pour me dire que vous avez arrêté de fumer.
Il y a intérêt.
Mais je trouve aussi, oui.
Il y a intérêt. Non, parce que je veux vraiment m'arrêter. Pas seulement pour pas avoir un AVC, mais parce que ça coûte cher. Et que, comment vous expliquer ? C'est la cigarette qui vous gouverne, c'est pas vous qui la gouvernez.
Quand vous étiez petite, est-ce que vos parents fumaient ?
Oui, mon père fumait.
Il y a aussi quelque chose qu'on appelle la fidélité inconsciente. Il est intéressant de se pencher un petit peu sur son enfance et voir qui nous a élevés. Quelquefois, papa fumait, maman fumait, quelqu'un qu'on aimait, qu'on admirait fumait. Et hop, inconsciemment, on se programme pour faire la même chose un jour.
Ah, c'est pas faux, ça.
Et on peut aussi se dire, mais finalement, j'ai le droit, moi, de choisir un autre chemin. Fumer, ne pas respecter son corps et sa santé, c'est une expérience que j'ai le droit de ne pas vivre. J'ai le droit de me libérer de ça, moi.
Et puis c'est dégueulasse, ça pue.
On est bien d'accord.
C'est-à-dire que quand j'ai arrêté pendant 15 jours, par exemple, la première cigarette, elle était... mauvaise, amère. Et bien j'en ai repris une autre.
Parce que c'est une drogue. Une fois de plus, je vous ai dit ça. C'est l'une des drogues les plus addictives qui soit. La nicotine.
Ah oui. Je pense que c'est aussi dur que l'alcool et l'héroïne ou n'importe quoi.
Ah, complètement.
J'en suis convaincue. C'est aussi pour ça. C'est pas elle qui va me commander, bordel.
C'est vous qui allez reprendre le contrôle maintenant.
Ah, mais j'y tiens. Parce que, comment vous expliquer ? Je crois que l'émotionnel, c'est pas une bonne raison pour refumer.
Non, on en a parlé tout à l'heure. Ça n'a jamais résolu rien, la cigarette. Jamais.
Mais non. Au contraire, c'est destructeur. Vous vous rendez compte que je sais tout ça, que je veux m'arrêter et que je replonge à chaque fois.
Est-ce qu'avec les clés que je vous ai données, vous allez essayer de le faire maintenant ?
Oui, intérêt.
Bon.
Alors là, oui, je vais demander à une copine de me la mettre, de télécharger, de le podcaster, et puis de me la mettre sur une carte SD, je l'écouterai.
Et puis au niveau des musiques, vous trouvez n'importe quelle musique de relaxation qui vous plaît. Ce qui compte, c'est que ça vous fasse du bien. Une musique qui vous apaise, simplement.
Ouais.
Vous écoutez cette musique et vous vous répétez à vous-même tous les jours, je choisis de redevenir non-fumeuse. Je choisis de me libérer de cette addiction répugnante. C'est de l'autosuggestion, vous vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Et ça se trouve des slogans, en somme.
Oui, si ça vous plaît, bien sûr.
Je choisis d'abandonner cette cigarette répugnante.
Très bien.
Il est excellent. Vous êtes excellent. Ah, écoutez. Je suis contente.
Eh bien, je suis contente que vous soyez contente, Lily.
Ah, vraiment. Je vous parle d'une façon un peu débile, peut-être, mais... Je voudrais en parler avec recul et bonne humeur, vous comprenez ?
Bien sûr. Parce que ben, je vous souhaite tout le succès du monde maintenant. Il n'y a plus qu'à.
Non ?
Bon, on fait comme ça et vous me donnez des nouvelles d'ici, allez, 3 semaines à moi. Vous laissez passer les 28 jours. Vous mettez en place de bonnes habitudes saines et bonnes pour vous. Oui. Vous libérez de cette addiction répugnante. Et vous me rappelez pour me donner de vos bonnes nouvelles d'ici un mois, 3 semaines à moi, d'accord ?
La cigarette est une sale bête.
Exactement.
Écoutez, mais vraiment, vous me mettez en joie. C'est bête.
Ben non, c'est pas bête.
Vous me donnez plein de petits trucs. Je vous assure que je vais le faire demain matin.
Eh ben, j'en suis ravie.
Parce que ce qui est terrible, là, vous allez me l'expliquer, puis après, je vais vous lâcher parce qu'il y en a d'autres derrière. Mais je mets un patch, pourtant. 21 mg, le plus fort.
Et ça marche pas.
Ah non.
Ah non. Et vous avez compris maintenant pourquoi ça marche pas.
Oui. Oui, parce que d'abord, c'est l'émotionnel qui prime.
Exactement.
Il faut que j'arrête. C'est ça ?
Et quelqu'un pose la question par SMS, me dit attention à l'aspect récompense de la cigarette. Et c'est exactement ce que je vous disais, vous choisissez autre chose qui vous plaît, une autre récompense. Bon. Attention aux bonbons sans sucre, hein. Ne pas remplacer une addiction par une autre, n'allez pas me prendre 20 kilos derrière, hein, c'est pas le but.
Mais les bonbons sans sucre, ça fait pas grossir.
Sans sucre, on est d'accord.
Si je prends, vous savez, la marque suisse.
Oui, très bien. Du moment que ça vous fait plaisir. Et là, on revient à cette notion de récompense. Sauf que se faire plaisir, c'est pas détruire sa santé.
Mais absolument, puis je m'aime.
Ah, voilà une bonne nouvelle.
Et oui.
Mais vous savez quoi, Lily, moi aussi, je vous aime beaucoup.
Vous êtes mignonne.
Bon, je vous embrasse et vraiment, je vous souhaite de vous libérer de ça rapidement.
D'accord. Ah, il faudrait que je vous rappelle une autre fois pour les sentiments contradictoires d'amour et de haine entre un père et sa fille.
D'accord, on fera ça quand vous aurez arrêté de fumer, on va faire un deal, d'accord ?
Ah oui.
Ça marche
absolument.
Comme ça ?
Faut absolument, parce que ça va en aider d'autres, ça aussi.
D'accord. Je vous embrasse, Lily, passez une bonne soirée.
Et j'embrasse tous les auditeurs.
C'est gentil.
À bientôt.
Au revoir, Lily.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Janine que j'accueille avec grand plaisir sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Janine.
Bonsoir, Sabrina.
Qu'est-ce qui vous amène ?
Je téléphone pour vous donner un tuyau qui peut valoir pour un autre motif. J'étais une grosse fumeuse, je peux fumer presque 2 paquets par jour, j'ai honte de le dire.
Pendant combien de temps ?
Au moins plus de 10 ans.
Oui.
J'avais commencé très tard à fumer. Et puis un beau jour, j'avais un toutou que j'adorais, que j'aimais beaucoup, qui était très malade, et je suis croyante. Je dis, mon Dieu, si mon chien guérit, je ne fumerai plus. Mmh. Mon chien guérit et je n'ai plus une cigarette après.
Ah, c'est joli comme histoire.
Voilà, on peut faire un vœu pour d'autres choses. Ça peut-être servir.
C'était quoi comme chien ?
C'était un petit chien des Pyrénées, chien de berger des Pyrénées, le petit.
Comme à l'abri un peu.
L'abri, c'était un abri.
C'est ça.
C'est des chiens qui sont très intelligents, très gentils.
J'en ai eu un comme ça il y a longtemps, oui.
Oui.
Ils sont extraordinaires.
Oui, ils sont extraordinaires, ils sont très attachants.
Comment ils s'appelaient ?
Il s'appelait Pomme.
Pomme.
C'est pas moi qui lui avais donné le nom, c'est des voisins qui l'avaient recueilli, puis qui n'en voulaient plus. Et nous, on a 12 ans et demi de bonheur.
Donc vous avez une relation très forte avec lui ?
Ah oui. Oui.
Et quand il est tombé malade, vous vous êtes dit ça ? Alors vous avez passé un deal quelque part ?
Oui, il avait été piqué par un tic.
Mmh. Ah, c'est une vacherie, ça, oui.
On s'en est aperçu tout de suite, on l'a tout de suite. Mais il était très malade, on lui faisait du goutte à goutte, enfin.
Ils peuvent en mourir,
énormément.
Hein. Ils peuvent en mourir de ça.
Et on avait peur, oui, il était très mourant, hein. Mmh. Il était mourant. Et là, je dis, mon Dieu, s'il guérit, je ne fume plus. Il a guéri.
Et comment vous avez fait? Alors, vous avez arrêté du jour au lendemain?
Oui, ah oui. J'avais fait un vœu que je ne fumerai plus. Et j'ai tenu mon vœu.
Sans difficulté?
Sans difficulté.
Vous étiez tellement heureuse qu'il aille bien, que c'est ça, en fait. Ça. Vous étiez portée par ce bonheur-là?
Oui, par le bonheur de voir mon chien rétabli. Oui.
Et après, dans les années qui ont suivi, vous n'avez jamais été tentée de recraquer?
Jamais. Jamais. Et même l'odeur de cigarette ne me gêne pas. Du tout. J'ai des amis qui viennent chez moi qui, quelquefois, fument. Ça ne me gêne pas. Ça ne me donne pas envie de recommencer.
C'est assez rare comme histoire, parce qu'on peut s'arrêter sur un événement comme ça,
oui.
Mais souvent on reprend.
Oui,
dès qu'il y a quelque chose, quelques mois, quelques années après, on reprend. Mais vous, non?
Ah non, j'avais fait un vœu, alors c'est important de faire un vœu.
Comme quoi, vous voyez la puissance de notre cœur.
Oui, hein. Oui. Et comme je suis croyante, je ne fumerai plus.
Et il y a des gens autour de vous qui ont été épatés par cette histoire?
Mon mari.
Oui, j'imagine.
Mon mari. Mais lui, c'était pas un gros fumeur. Il fumait 2-3 cigarettes. Et même après, il y fumait plus. Mais ça ne m'aurait pas gêné. J'avais fait un vœu et je m'y tenais. C'était tout. Voilà, mon chien était bien vivant. Ça suffisait à mon bonheur. Voilà.
C'est ça, ce bonheur-là vous remplissait. Vous n'aviez plus besoin d'autre chose,
non.
En fait.
Mais oui. Non. Tout d'un coup, non.
Oui.
Ça peut donner des idées.
Comme quoi, chacun peut trouver son chemin pour s'arrêter. Ça me rappelle une autre histoire. On m'a raconté un jour un monsieur qui n'arrivait pas à s'arrêter de fumer.
Ah, ouais.
Quand son bébé est né, il a continué à fumer. Quand son enfant a commencé à grandir, il a continué à fumer.
Ouais.
Et le petit garçon suçait son pouce. Un an, deux ans, trois ans, jusqu'à 6 ans. Et à 6 ans, tout le monde lui dit, il faut vraiment que tu arrêtes de sucer ton pouce.
Ah, oui.
Il est allé voir son père, il dit, écoute papa, voilà. Moi, je veux bien, j'arrête de sucer mon pouce si tu arrêtes de fumer. Eh bien, ils l'ont fait.
Eh bien, oui.
Oui, c'est ce même genre de motivation. Chacun était fier de l'autre, en fait.
Voilà.
Et le papa n'a jamais repris la cigarette et le petit n'a jamais repris le pouce.
Donc, vous voyez, il y a des tas de choses où on peut... Parce que moi, j'avais essayé des tas de trucs, de nicoprive, enfin des tas de... Ça ne m'avait rien fait du tout.
Mais nous, on remplace une drogue par une autre drogue, donc forcément, c'est extrêmement compliqué.
Oui.
La meilleure drogue, vous voulez que je vous dise laquelle c'est?
Non.
Ah ben si,
oui.
C'est l'amour.
C'est l'amour, voilà. Exactement. L'amour paierait renverser des montagnes. Voilà.
Merci pour ce témoignage, Annie.
Voilà.
Un grand, grand merci.
Je serais heureux si ça pouvait servir à quelqu'un. Parce que le tabac tue. Pour le savoir, que le tabac tue.
Bien sûr.
Hélas, on en a des preuves souvent.
En tout cas, merci pour ce beau sourire dans votre voix, ce joli témoignage. On a une pensée d'amour pour ce toutou qui a été là, qui vous a accompagné pendant un moment de vie.
Ah oui, oh oui. Qu'on avait recueilli et qui nous a donné beaucoup de joie, beaucoup d'amour, comme toutes les bêtes.
Oh oui.
Comme toutes les bêtes.
Je vous embrasse fort, Jeannine.
Voilà.
Merci de votre appel. Merci
au
à
revoir.
Vous. Bonne soirée, au revoir. Notre émission de ce soir se termine déjà. Un grand merci à Anne, à Caroline, à Lily, à Jeannine, à tous ceux qui sont passés sur l'antenne, à tous ceux qui nous ont écrit, envoyé des SMS, des mails. J'espère que ça vous a apporté un bon moment, cette soirée d'échange, que vous avez pioché ça et là des idées, des solutions à vos soucis. Et je vous retrouverai demain soir avec le même plaisir à partir de 23h pour cette libre antenne. Mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous ce petit conte thérapeutique sur le changement. Il était une fois une jeune femme qui parcourt chaque jour la même rue pour se rendre de son domicile à son travail. Elle est heureuse de voir tous les jours les mêmes vitrines, de saluer les mêmes commerçants, de pouvoir compter sur ses pas, sur le temps dont elle dispose pour aller d'un point à un autre. Un jour, alors qu'elle parcourt la même rue comme à son habitude, elle voit un panneau sur lequel on peut lire « Travaux en cours, accès interdit aux personnes étrangères au chantier ». Comment ça, accès interdit? Mais je dois absolument passer par cette rue si je veux arriver à l'heure, dit-elle au contremaître. Celui-ci lui répond : Je suis désolée, ma bonne dame, mais cette rue est actuellement inutilisable. Elle est même très dangereuse. Elle est pleine de trous, nous sommes en train de la réparer. La jeune femme insiste, mais elle doit renoncer car elle se rend compte que le contremaître est inébranlable. Il ne lui permettra pas de passer. La jeune femme est contrainte à changer de rue. Elle ne peut pas faire autrement. Mais elle n'a pas la moindre idée de celle qu'elle pourrait emprunter, de celle qui pourrait être la meilleure alternative. Elle doit faire des expériences. Alors elle prend au hasard la première rue sur la droite, et tandis qu'elle marche d'un pas rapide pour récupérer le temps perdu, elle remarque que cette rue a un parfum que l'autre n'avait pas. Elle regarde autour d'elle et voit qu'elle est pleine de verdure, d'arbres, de fleurs sur les balcons. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en changeant d'itinéraire, elle découvrirait le parfum des rues. Le lendemain, elle est heureuse de constater que la rue est encore coupée. Elle décide de prendre celle de gauche. Là, elle découvre que toutes les maisons sont peintes de couleurs différentes, rouge brique, jaune soleil, vert espérance. Elle a la sensation de traverser un arc-en-ciel. Le troisième jour, elle change encore de rue, curieuse de découvrir ce que lui réserve ce nouveau parcours. C'est la rue de la musique. On dirait que tous les musiciens de la ville se sont concentrés ici. De chaque fenêtre sort une musique différente qui accompagne ses pas. La jeune femme est maintenant reconnaissante que les travaux en cours l'aient contrainte à changer de rue et qui lui ait donné la possibilité de découvrir les belles surprises que l'on peut rencontrer dans les rues de sa propre ville. Il suffit simplement, tout simplement, de changer d'itinéraire.